La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, dernier moment de notre série d'émissions consacrée à l'écrivain engagé Georges Semprin. Il est né en 1923 dans une famille de la grande bourgeoisie espagnole, mais que les convictions républicaines ont forcé à l'exil alors que la menace franquiste se précisait. Lycéen à Henri IV à Paris, il fait partie d'un réseau de résistance, ce qui le conduit à être arrêté en 1943 et déporté à Buchenwald, une expérience sur laquelle il ne cessera de revenir dans son œuvre et notamment dans L'écriture ou la vie, paru en 1994, alors qu'il a été entre-temps communiste clandestin et ministre de la Culture en Espagne. De cette vie hautement romanesque, nous parlions lundi, c'était avec Gérard de Cortanze. Mardi, c'est sur sa démarche littéraire que nous nous sommes plus particulièrement penchés. La question de l'autobiographie, de l'identité, de la mémoire et du témoignage qui sont au centre de ses livres. Maria Ruiz Galbete nous éclairait sur tous ces points. Hier, c'est de la torture et de la résilience dont il a été question. D'abord avec Régis Debray qui a préfacé le livre « Exercice de survie » où Semprin raconte précisément la résistance et la torture. Et puis avec Corinne Benestroff, nous avons continué d'interroger la question de la résistance et de la résilience dont elle est spécialiste. Toutes ces émissions peuvent bien entendu être réécoutées en podcast. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous commençons par l'étude du lectorat de Georges Semprin. Qui est-il ce lectorat? Quel est son rapport avec cet écrivain? Je suis avec Françoise Nicolazzé, auteure d'une enquête sur le sujet, La lecture et la vie, publiée aux éditions Gallimard. Et puis, en seconde partie, point d'orgue à notre semaine, je recevrai le cinéaste Costa Gavras, qui a été l'ami de Semprin et qui a travaillé avec lui sur ses films Z, L'aveu et Section spéciale. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Voulez-vous nous prononcer en espagnol puis en français votre prénom et votre nom tout en nous précisant ce qu'implique pareille métamorphose?
Je commencerai par le dire en français, c'est Georges Semprin, et en espagnol c'est Jorge Semprún. Donc très différent. Je n'essaye pas de me faire appeler par mon prénom en espagnol ou le faire prononcer par les Français en espagnol parce qu'ils n'arriveront pas. Prononcer deux sons gutturaux avec un R roulé au milieu, Jorge, c'est impossible pour un français. Et Semprin, bon, c'est, je suis habitué. Je réagis aux deux façons de m'appeler, ou alors je ne réagis pas du tout si j'ai pas envie de réagir. Mais ça ne fait pas de différence pour moi.
Bonjour Françoise Nicolazzé.
Bonjour.
Nous allons prononcer à la française le nom de Semprin, c'est plus sûr. D'autant plus que c'est comme cela qu'il est connu par la majorité de ses lecteurs français, lecteurs que vous avez étudiés dans votre livre. Est-ce qu'ils sont très différents, ces lecteurs français, de ces lecteurs espagnols? Le savez-vous?
Alors, je pense, oui, qu'il y a forcément des différences en raison de la culture d'origine. Mais je pense que le lecteur de Semprin, si je puis dire, est un lecteur, quel qu'il soit, qui est à la fois, je dirais, empathique et libre. Alors, libre parce qu'il garde sa capacité de critique, même à côté d'une admiration très large, mais empathique parce que il a la faculté de se mettre au plus près, non pas de ressentir, c'est impossible, mais de se mettre au plus près des souffrances de l'exilé, du torturé, du déporté et je dirais aussi du survivant à jamais atteint dans son âme.
En fait, on peut dire, Françoise Nicoladze, que ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet, c'est que vous avez été impressionnée précisément par ses lecteurs. C'était en octobre 1997, juste après la publication de votre essai « La deuxième vie » de Georges Semprin. Vous avez rencontré certains de ses lecteurs au salon du livre antifasciste qui se tenait à Gardanne. Quel est l'effet qu'ils vous ont fait, ces lecteurs ?
Alors, ces lecteurs m'ont fait l'effet de lecteurs extrêmement fervents. D'ailleurs, dans les questionnaires que j'ai adressés, dans les lettres que Georges Semprin a eu l'honneur de me confier, le mot ferveur est un mot qui revient très, très fréquemment. Alors, ferveur pourquoi ? Eh bien, d'abord en raison de l'engagement antifasciste de Georges Semprin, qui, malgré, je dirais, une avance évolutive dans sa biographie spirituelle ou politique, est toujours très, très présente, fondée sur les valeurs de liberté, de justice, et puis ferveur aussi à cause de l'émotion que ce personnage littéraire, je parle du narrateur ou bien de ses doubles imaginaires, disons le héros semprunien pour faire gros, cette émotion qu'il dégage et auquel les lecteurs sont très sensibles, quelles que soient les quelques réserves qu'ils peuvent faire par ailleurs
et
sur certains aspects de son œuvre.
Donc vous voulez dire qu'il est particulièrement empathique avec Semprin. On s'identifie à Georges Semprin ?
Oui, alors, s'identifier...
C'est difficile quand même.
Je n'irai pas jusque-là. Je dirais qu'on va au plus près. Alors, ceux qui peuvent s'identifier, ce sont les anciens déportés, qui ont trouvé là une rencontre humaine extraordinaire et une rencontre fraternelle. Dans mon livre, mon enquête sur ce lectorat, j'ai cité en exergue une des phrases d'une de ces lettres où justement le lecteur insiste sur l'humanité, sur la fraternité, sur cet homme sans prin, car c'est toujours difficile avec l'œuvre de Semprin de distinguer le narrateur de l'écrivain de l'auteur, mais il y a en tout cas avec le narrateur Semprunien, puisque moi c'est là-dessus que j'ai travaillé, il y a un rapprochement et je dirais presque un amour, mais cet amour ça vient de la communauté humaine.
Donc ces lettres que Semprin vous a données, elles sont nombreuses. Est-ce que c'est souvent les mêmes personnes qui écrivent ?
Non. Alors, elles sont nombreuses. Il y en avait dans l'énorme carton 400. J'ai travaillé sur à peu près 300 parce que c'était les plus intéressantes. J'ai laissé de côté les lettres qui étaient convenues de politesse ou de mondanité. J'ai laissé également de côté les quelques lettres. Il y en avait très peu, mais Georges Semprin les avait laissées dans le carton. Des lettres qui disqualifiaient le témoin, mais qui n'étaient pas sérieusement argumentées, donc elles n'étaient pas intéressantes pour mon étude. Alors, les autres lettres étaient... comment dirais-je, proches les unes des autres, mais chacune écrite par un homme ou une femme différent. Alors, qui écrit à Semprin ? Alors, bien sûr, tout le noyau de la résistance et de la déportation, c'est sûr. Mais pas seulement. Au-delà de ce noyau de lecteurs attendus, pourrait-on dire, il y a des lecteurs qui ont... comment dirais-je, une sympathie, bien sûr, pour l'esprit de résistance et d'engagement de Georges Semprin, mais qui ont aussi trouvé dans son œuvre une reconnaissance de leur propre souffrance. Il y a une dimension universelle dans la douleur.
Donc pas forcément une souffrance liée à une captivité ou à des camps ou à la torture, mais une souffrance qui peut être tout type de souffrance et qui arrive finalement à se projeter dans la souffrance ressentie par Semprin. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que sa littérature amène à ça ?
Eh bien, je pense parce que bien que Georges Semprin parte pour beaucoup de souvenirs autobiographiques, de vécu. Il a su dépasser sa propre personne, notamment par l'expérience du camp et de la solidarité avec les autres déportés. Il a su dépasser ça pour atteindre justement à une compréhension de l'âme humaine et à une fraternité qu'il exprime très souvent, une fraternité qui lui vient non seulement de la souffrance, mais de la mort partagée.
Donc on est plutôt dans l'humanisme que dans l'histoire d'une trajectoire personnelle. On arrive à dépasser
tout à fait,
la propre
tout à fait. Je
trajectoire
pense,
de l'auteur.
Tout à fait. Je pense que dans l'évolution du personnage samprunien, il y a, comment vous dire, un espèce de travail sur soi. Claude Elmond de Magny lui recommandait, quand il était encore très jeune, de se déprendre de soi. Eh bien, je crois que l'œuvre de Georges Samprun le prouve.
Στη δουλειά κοθού χιαγού τα γονή γουσίδα στα σύν τη ελφινή
Vous écoutez la Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Georges Samprun avec Françoise Nicoladze. Est-ce que vous diriez que c'est une œuvre qui est une œuvre populaire, Françoise Nicoladze, celle de Georges Samprun?
Alors non, on ne peut pas le dire, bien que dans son lectorat, j'ai trouvé un certain nombre de lecteurs qui n'avaient pas cette culture qu'on retrouve dans le texte de Samprun.
Il faut être cultivé pour lire Samprun, ou en tout cas pour en comprendre tout l'intérêt.
Alors, je crois que oui, je crois que c'est une clé de l'œuvre. Je ne dirais pas que c'est une œuvre élitiste, mais c'est une œuvre qui est imprégnée, ruisselante au bon sens du terme, de culture. Mais je dois dire que j'ai été frappée d'admiration, d'ailleurs, par des lecteurs venus d'origine populaire et qui ont fait cet effort qu'exige l'œuvre de Samprun et qui sont allés jusqu'au bout, plus lentement que d'autres peut-être, et qui du coup en ont retiré un apport considérable. Ils le disent tous. Alors, vous avez aussi l'attitude inverse, que cet élitisme repousse, le lecteur paresseux qui dit « je ne comprends rien, je ne veux pas lire », mais ils sont relativement très peu nombreux par rapport aux autres.
Alors, il y a une catégorie, même si, évidemment, Samprun tend à l'universel, vous venez de nous le dire, Françoise Nicoladze, il y a quand même une catégorie qui est probablement particulièrement intéressée par ces textes, et notamment ces textes de déportation, ce sont les membres de la communauté juive. Est-ce qu'il y a, dans votre enquête ou dans les lettres, en particulier, des lettres de déportés juifs ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ce qui ressort particulièrement de ces textes, c'est la sérénité, le soulagement devant un livre qui parle d'eux, puisque Georges Samprun, dès le Grand Voyage, insère évidemment cette déportation du type racial, qui parle d'eux et qui va leur ôter l'angoisse du témoignage et l'angoisse de mourir sans avoir suffisamment transmis. Très souvent, je lis « Enfin, je mourrai paisible ».
Mais en même temps, ça n'est pas la même expérience, parce que Samprun, lui, a été arrêté pour des raisons politiques.
Oui, ça n'est pas la même expérience, mais je dirais que si qui peut unir, c'est l'antifascisme, c'est le combat pour la liberté et c'est la souffrance. Souffrance, certes, différente, mais une souffrance, et je pense aussi qu'il les réunit, c'est la mort. La mort est très présente dans l'œuvre.
En tout cas, vous dites que Samprun s'efface par rapport à la souffrance des Juifs dans les camps.
Oui, oui. Il a reconnu que c'était une souffrance particulière à tous égards. que c'était l'humanité qu'on essayait d'atteindre en eux. Les déportés politiques, ce sont des combattants qui savent pourquoi ils sont en déportation. Ils ont lutté, ils ont accepté d'en payer le prix. Et bien sûr, Georges Samprin rend hommage à leur courage. Mais les autres, c'est terrible. C'est terrible.
Alors, on peut peut-être dire un mot, Françoise Nicolazé, sur le contexte de la réception des livres de Georges Samprin, et notamment, encore une fois, des livres sur la déportation. Il faut dire que quand ces premiers livres paraissent, il y a d'autres écrivains qui commencent à témoigner de ces mêmes questions. Et finalement, la réception par les lecteurs du Grand Voyage, par exemple, doit être comprise dans le contexte de la publication de ces autres livres sur les camps, Françoise Nicolazé.
Oui, alors il y a eu bien sûr tout de suite, après la libération des camps, il y a eu Robert Antelme, il y a eu Primo Levi, qui écrivent des livres remarquables, le problème n'est pas là, mais je pense que le public n'est pas prêt à recevoir ces livres. Mmh. Donc il y a une audience qui est faible, il faut que le temps passe, et il y a un moment où le lecteur est prêt.
Donc Samprin arrive au bon moment, alors.
Je pense qu'il arrive au bon moment. Si je prends mon exemple personnel, par exemple, enfant, j'avais 10 ans, à la libération des camps, j'ai été bien sûr, comme toute ma génération, extraordinairement frappée par ces images terrifiantes qu'on voyait des déportés avec ce regard dévasté dont parle Samprin. On m'a expliqué... Mais on m'a pas expliqué le fond des choses parce qu'on ne pouvait pas me l'expliquer, à savoir le problème du mal que Samprin reprend dans son œuvre. Donc j'ai porté ce souvenir et j'ai dû, comme mes amis, comme mon entourage, l'oublier un peu. Et puis il ressort à un moment où nous sommes disponibles, si je puis dire, ayant fini nos études, étant entrés dans une profession, nous sommes disponibles pour nous intéresser au monde. Et le livre de Samprin paraît. Personnellement, j'étais lectrice de la revue Esprit, donc c'est par là que je l'ai connu. Et à partir de ce moment-là, je ne le quitte plus, comme beaucoup de lecteurs me le disent.
Vous vous souvenez de ce jour où vous avez lu, vous avez découvert finalement Le Grand Voyage ?
Oui, où je l'ai découvert, où je me suis souvenue également d'une visite que ma mère m'avait fait faire à un voisin qui avait été déporté, souvenir que j'avais totalement oublié et qui me revient. C'était d'ailleurs un déporté communiste de Buchenwald. Et je lis ce livre et je dis, mais c'est lui, c'est ça. Et à partir de là, au-delà de l'anecdote, au-delà de la narration, je me mets, mais comme les autres, je me mets à réfléchir.
Donc c'est un livre qui fait réfléchir, et ça les lecteurs vous le disent, ils voient différemment finalement ces revenants entre guillemets.
Oui, ils les voient différemment, ils comprennent l'enjeu fondamental de ce qu'a été cette souffrance et cette lutte, et ils s'y intéressent, ils suivent Samprin, un peu déçus parfois quand le thème de la déportation n'est pas repris. Il est toujours repris, mais d'une façon un peu dissimulée.
Donc on lit Samprin pour ça d'abord.
On relit d'abord Samprin pour ça. Après, le cercle de ses lecteurs va s'élargir. D'abord, il va s'élargir avec les films. Hein. Samprin, scénariste, Costa Gavras, ça parle aux gens.
Et
puis il y a Yves Montand aussi. Mmh. Bon, donc le cercle s'élargit. Et puis de nouveaux jeunes lecteurs arrivent. Alors formés, merci l'École de la République, par certains professeurs quand même qui parlent de Samprin. Et puis après l'écriture ou la vie, la télévision va s'en emparer, la radio aussi. Et vous savez quel orateur et quel personnage chaleureux pouvait être Georges Samprin à la télévision. Et je lis par exemple dans mes questionnaires des lecteurs qui me disent « Je découvre ces livres, donnez-moi tous les titres, je ne veux rater aucun de ces rendez-vous. »
Je voudrais être la première femme de ta vie.
C'était excessif, je lui ai fait remarquer. De ma vie, c'est trop tard. La première d'après ma mort, tu ne peux pas faire mieux. La voix de cuivre de Louis Armstrong ouvrait des avenues de désirs infinis, de nostalgie acide et violente. La jeune femme tremblait de tout son corps. Elle ne dansait plus. Comme si elle avait soudain un désir panique de l'étrange passé dont j'arrivais, du désert qui s'annonçait malgré moi dans mes yeux. Comme si elle était attirée par cette panique même. Les semaines suivantes, les mois, au cours de ce printemps, cet été-là, du retour. Drôle de mots. hypocrite, équivoque pour le moins. J'ai eu l'occasion de vérifier la persistance efficace de ce regard. Du mien, je veux dire. Il n'était plus déchiffrable d'emblée, comme il avait été pour les 3 officiers en uniforme britannique 15 jours plus tôt. Pour cette jeune femme d'Eisenach aussi, qui répondait au prénom de Martine et qui faisait partie d'une mission auxiliaire de l'armée française, mes cheveux repoussés, en effet. J'étais habillé comme n'importe qui, n'importe quel type de 20 ans à Paris, par beau temps estival. Mal habillé, sans doute, à la diable, comme tant d'autres types de mon âge à cette époque de pénurie de l'après-guerre. Rien n'indiquait de prime abord où j'avais passé les dernières années. Moi-même, je me tue aussitôt à ce sujet pour longtemps. Non pas d'un silence affecté, ni coupable, ni craintif non plus. Silence de survie plutôt. Silence bruissant de l'appétit de vivre.
It means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do. Because it's oh so good.
Un extrait de L'écriture ou la vie, c'est le moment où Georges Samprin revient des camps et où ressurgit son appétit de vie. Il y a aussi question d'une jeune fille qui n'est pas insensible à la beauté de ce jeune homme qui a un pouvoir de séduction augmenté sans doute par l'étrange aura de ce regard qui finalement est devenu plus mature et est devenu augmenté, si l'on peut dire, par ces mois passés dans l'horreur. Et ce regard, il a un effet sur les femmes. À ce propos, Françoise Nicoladze, vous vous êtes intéressée à la réception en particulier des femmes de l'œuvre de Georges Samprin.
Oui, je vais vous répondre immédiatement, mais je voudrais juste ajouter tout à l'heure au niveau de la réception du lectorat que ce qui attire beaucoup les derniers lecteurs de Georges Samprin, enfin je dis les derniers par rapport à l'heure, c'est ce que j'appellerais la reconsidération de l'histoire du communisme, l'histoire du nazisme, et ça je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Monsieur Costa-Gavras, donc je n'y reviens pas, mais c'est très important. Mmh. C'est très important.
Et là ça va être des lecteurs qui sont des lecteurs communistes en particulier, ou d'anciens communistes?
Pas du tout. Ce sont des lecteurs qui ne sont pas qui ont peut-être été communistes, mais qui reconsidèrent l'histoire en dehors des mythologies avec une liberté critique et qui se penchent sur la rupture morale, je dirais, nécessaire, morale et politique, nécessaire avec le communisme et le rebondissement sans l'abandon de l'idéal. Voilà, mais ça, avec les films, on le voit bien.
Et sur les femmes, alors?
Alors, sur les femmes, la réception est mitigée. D'abord, on trouve que c'est...
Il y a beaucoup de lectrices, quand même, il faut le dire, d'abord.
Oui, on trouve que ces femmes ont une belle place, mais une place qui est quand même très loin d'une figure du féminisme. Et ça fait tiquer certaines lectrices. Bon.
Alors, par exemple, en quoi est-ce qu'elles ne sont pas féministes, ces personnages de femmes?
Dans la mesure où quand même elles tiennent toujours le second rôle, parfois un beau rôle. Elles sont médiatrices de la résurrection du revenant, par exemple, avec Laurence. Ça, tout le monde le souligne. Mais elles sont tout de même sous la dominance masculine et pâlissent un peu. Et d'autre part, elles sont, pour certaines lectrices, elles correspondent, alors pas du tout à la ménagère de 50 ans, dit avec humour une des lectrices, et ce sont tout de même un peu des femmes de papier glacé, toujours belles, toujours intellectuelles, toujours intelligentes, toujours quasiment parfaite. Bon, donc ça explique une réception
irréelle, quoi.
Voilà, irréelle, un petit peu mitigée, mais tout le monde reconnaît quand même, et avec Adieu vive clarté, ça a été évident, la gratitude du narrateur saint-prunien devant ce continent féminin qui l'attire, qu'il séduit, bien sûr. Le narrateur saint-prunien est un grand séducteur, il n'y a pas de doute.
C'est un Don Juan même.
Alors, c'est un Don Juan, oui, mais c'est un Don Juan qui quand même estime les femmes. Je suis pas sûre que le personnage de Don Juan traditionnel le fasse. Et c'est un Don Juan qui a une générosité dans l'amour, même s'il n'y a pas d'unicité dans cet amour, si on en change beaucoup, si parfois le chant érotique laisse entendre des perversions possibles, etc. C'est quand même une générosité et l'électrice de conclure, après tout, c'est pas si mal.
Mais alors justement, cette électrice, comment voit-elle la relation qu'il fait d'un certain nombre de fantasmes sexuels dans ses livres?
Alors écoutez, ces fantasmes sexuels, qui sont les fantasmes de tous et de toutes, hein, je ne les rattache pas du tout à l'homme sans prince, c'est un fantasmagorie littéraire.
Ces fantasmes... Là encore, il tend à l'universel davantage qu'il ne raconte son histoire.
Alors je pense qu'il tend, bien sûr, c'est ce que Giacometti a appelé les sculptures de l'inconscient, il a fait une très belle sculpture. Je pense qu'elles apparaissent surtout au fur et à mesure que l'œuvre avance. Et surtout, évidemment, dans le dernier roman, 20 ans et un jour. Et ça, je n'ai pas pu interroger les lecteurs puisque j'ai fait mon enquête avant la parution de ce livre. Je n'ai donc que des échos d'amis lecteurs. Oui, je crois que tout le monde a bien compris. Enfin, quand je dis tout le monde, ceux qui ont bien lu Georges Samprin, pas en surface, tout le monde a bien compris qu'il s'agissait du continent de la sexualité, d'un champ érotique qui appartient à tous.
Alors il y a aussi des critiques, hein, évidemment. C'est peut-être moins dans les lettres que dans le questionnaire.
Oui, alors vous avez tout à fait raison, parce que les lettres qu'on écrit à Georges Samprin, c'est un cri d'émotion, si vous voulez. Donc on ne va pas se mettre à émettre des réserves, ça n'est pas le lieu ni le moment. Les questionnaires, évidemment, les lecteurs se sentaient beaucoup plus libres. Alors, ce sont des critiques qui sont exprimées vivement, mais qui restent légères et qui n'effacent pas l'admiration pour l'écriture.
C'est des critiques qui tempèrent seulement.
Des critiques qui tempèrent, qui montrent justement ce que j'appelais l'attitude libre du lecteur. Mais comme ils le disent, ça n'altère en rien ni la grandeur du style, ni la grandeur du propos.
Alors qu'est-ce qu'on critique ?
Bah d'abord cette culture immense de Georges Samprin.
Ah, on critique la culture alors.
Voilà, on ne critique pas la culture. On critique la présence de citations littéraires, de références à des auteurs que le public ne connaît pas toujours et qui nécessitent donc un effort de lecture. Mmh. On critique ça. Alors, pour ce qui est de l'aspect philosophique de l'œuvre, il y a une prudence parce que le lecteur dit je ne sais pas, donc je ne dis rien. Mais du coup, je suis un peu loin à ce moment-là de l'œuvre. Et puis alors, la critique la plus fréquente et je dirais la plus amère, c'est ce qu'ils appellent le parisianisme de l'auteur.
Le parisianisme, alors qu'il n'était même pas français, il était espagnol.
Oui, mais dans ses romans, La Montagne Blanche, par exemple, Netchaïef est de retour, etc., il y a un milieu, un micro-milieu, évidemment, qui n'est pas forcément le milieu des lecteurs et qui se sentent donc un peu coupés de cela. Mais tout ça n'apparaît pas grave. On le dit, on a besoin de le dire. Hein, mais voilà. Tout ça ne change en rien l'estime pour l'homme et l'admiration pour l'écrivain.
On a parlé de narcissisme.
Alors, on a parlé aussi de narcissisme. C'est vrai que le narrateur saint-paulien, bien qu'il soit souvent dans la confession, tient toujours plus ou moins le beau rôle. D'abord par son aveu, et qui nécessite un courage moral. Bon, donc, ça le place
qui est réel, aussi.
Un peu au-dessus. Oui, comme dit un des lecteurs, le juge et le jugé sont toujours au même niveau. Bon, donc ça lui est un peu reproché. Ce qui lui a fait du tort, d'une certaine façon, mais pas que du tort, c'est le succès médiatique qu'il a eu aussi. Alors là, les envieux, les amers, bon, bien sûr, évidemment, s'expriment. Mais ce succès médiatique a permis aussi à l'œuvre d'être connue.
Est-ce que vous avez parlé de tout cela, et notamment des critiques, avec Georges Samprin, Françoise Nicolazzi?
Alors écoutez, très curieusement, je rencontrais Georges Samprin dans des colloques ou dans des présentations de livres où il était présent. À ce moment-là, nous parlions beaucoup de ses textes, mais quand je le rencontrais de façon amicale, non, nous avions une conversation libre.
Vous ne savez pas s'il a lu votre livre?
De rien. Oh, si, bien sûr, il a lu ma thèse. Il a lu mes livres.
Vous ne savez pas s'il était d'accord avec...
Tout à fait. Il me l'a dit, il me l'a écrit.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Merci beaucoup Françoise Nicolazé. Je rappelle que vous avez donc publié plusieurs ouvrages sur Semprin et notamment La lecture et la vie, Georges Semprin et son lectorat. C'est aux éditions Gallimard. Dans quelques instants, nous allons accueillir le cinéaste Costa Gavras, dont Semprin a été le scénariste pour trois de ses films. Mais tout de suite, c'est le moment d'En compagnie des revues avec aujourd'hui Jacques Nerson de l'Obs. Bonjour Jacques.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes allé voir La règle du jeu à la Comédie française, adapté du film de Renoir, par la metteur en scène brésilienne Christiane Jataï. Qu'en avez-vous pensé, Jacques ?
Ben écoutez, je crois n'être pas le seul. Enfin, les avis sont partagés, mais je crois n'être pas le seul à avoir été très déçu. Déçu parce que...
Vous en attendiez beaucoup, peut-être ?
Il est vrai que j'en attendais beaucoup parce que le film est quand même un film extrêmement important. Ça fait partie du patrimoine de tous les, au moins de tous les cinéphiles. Et puis d'autre part, il y a une volonté de la Comédie française qui est pas inintéressante d'aller chercher ailleurs que dans le théâtre des œuvres. C'est ce qu'ils ont fait déjà en début de saison avec, ça avait même commencé à Avignon avec Les Damnés, spectacle qui s'est donné à la rentrée. Et là, c'était à nouveau intéressant, encore une fois, d'interroger ce patrimoine cinématographique, étant donné que le cinéma est né du théâtre, on peut le dire, et maintenant il y a une sorte de retour des choses, et c'est très bien, et on se dit qu'il y a des œuvres importantes qui sont nées au cinéma et qu'elles peuvent nous apporter quelque chose sur une scène de théâtre. Mais Christiane Jataï, malheureusement, bon, je vais employer un mot un peu méchant, mais elle est prétentieuse. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de réfléchir à la façon de raconter cette histoire théâtralement, elle veut aussi la raconter à nouveau en faisant du cinéma. Donc elle fait du cinéma sur du cinéma, et par exemple le début du spectacle, c'est quand même très long, ça va durer 26 minutes, il y a un prologue de 26 minutes, qui est un film.
Qu'elle a tourné elle-même.
Un film qu'elle tourne elle-même, avec les acteurs de la Comédie française, étant donné qu'elle prend pour idée, ce qui n'est pas très original, de remplacer le décor, c'est-à-dire le château de Robert, eh bien, elle le remplace par le bâtiment de la Comédie française. Donc, le film se déroule à l'intérieur de la Comédie française, dans les loges dehors, etc.
Et le public, finalement, est censé être un peu les invités, représenter en tout cas les invités de la
pas
fête dans
non,
le film
Non, pas vraiment.
Renoir.
Non, les invités, ce sont c'est la troupe de la Comédie française. Et elle réussit quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'elle rend les acteurs de la Comédie française ridicules et mauvais. Même, alors que c'est une excellente troupe, c'est quand même une des meilleures troupes qu'on ait en France, de loin. Eh bien là, ils sont parfaitement ridicules. Et alors, non seulement, il y a cette façon de faire du cinéma sur du cinéma, et puis alors, elle recommencera d'ailleurs à la fin, l'épilogue aussi est filmé, ce qui est une sorte d'aveu d'impuissance. Quand on fait du théâtre, il y a que le cinéma ou la vidéo soit un auxiliaire, c'est une très bonne idée, mais que ça remplace la narration théâtrale, alors là, ça me paraît tout à fait idiot.
Sur une pièce qui dure 1h50, hein, donc on a beaucoup de vidéos.
Et alors surtout, elle ajoute du musical, on fait chanter Claude François ou Dalida ou des trucs comme ça, en demandant. Alors là, c'est vrai au public de participer, de lever les mains, de s'agir. C'est totalement grotesque et ça n'ajoute vraiment rien à la compréhension de Renoir.
Voilà, bon, alors vous êtes allé voir également Scène de la vie conjugale, mis en scène par Safi Nebout, c'est au Théâtre de l'Œuvre. Est-ce que c'est...
Alors là, c'est le contraire. Là c'est vraiment un beau cadeau que fait le cinéma grâce à deux adaptateurs, Safi Nebout lui-même et Jacques Fieschi, qui sont des gens essentiellement des gens de cinéma. Mais eux ont vraiment compris ce que c'était que le théâtre. Ils ont compris notamment la nécessité de resserrer l'action. Il n'y a plus que deux acteurs, les protagonistes, les acteurs
donc,
principaux.
Laetitia Casta et Raphaël Personnage.
Qui sont tous les deux excellents. Alors, je dois dire, il faut que je fasse un mea culpa, parce que Laetitia Casta est quelqu'un dont je m'étais beaucoup moqué quand elle a joué Ondine, ou plus encore quand elle a joué une pièce de Florian Zeller, où elle était très mauvaise. J'avais fait un mauvais jeu de mots dont j'ai honte. J'avais dit Laetitia Casta. Eh bien, j'avais...
Vous en avez honte, mais vous allez le répéter quand même.
mais c'est pour dire que j'ai eu tort. Vraiment, parce que
Laetitia
elle a fait
revient,
d'énormes
voilà.
progrès, ou alors c'est moi qui ai changé, mais je crois que c'est plutôt elle qui a vraiment évolué, et elle est très très bouleversante. Raphaël personnages aussi. Alors, il faut rappeler un tout petit peu ce que raconte peut-être cette pièce, c'est que c'est vraiment très ennuyeux d'être heureux. Et donc, l'homme, surtout les hommes d'ailleurs, ils cassent volontiers leur bonheur parce que au bout d'un moment, ça les ennuie. Et donc, un couple qui a l'air apparemment heureux va éclater sous nos yeux et en même temps, ils seront dans un drame toute leur vie parce qu'ils ne peuvent pas vraiment se passer l'un de l'autre.
Merci beaucoup Jacques Nerson. Tout cela et donc bien plus encore, c'est à retrouver où ?
Ben dans l'Obs, bien sûr.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Il est temps de parler d'un autre aspect de la vie de Georges Samprin, c'est-à-dire son travail de scénariste. Nous sommes en compagnie de Costa Gavras, cinéaste bien connu du film Z, dont Samprin a écrit, entre autres, le scénario et dont voici plus qu'un extrait, disons, une ambiance.
C'est le nouveau visage de l'opposition. Avant lui, c'était le désert. Les jeunes sont avec lui et Pléopas.
Un ministre ?
Oh, sûrement pas. Il cherche à dégager le pays des influences étrangères. Aux prochaines élections, il ramasse tout.
Il a de la gueule.
Quoi ?
Il a de la gueule.
Champion olympique dans sa jeunesse. Médecin, professeur à l'université
il
et député honnête. Complet, quoi.
Il est aussi au Bolchoï.
Il faut absolument le convaincre d'annuler la réunion.
C'est ça, on se dégonfle.
Il ne s'agit pas de se dégonfler, il s'agit d'éviter la provocation.
Non, il faut organiser un service d'ordre avec les...
C'est ça, la bagarre, tout ce qu'il cherche.
La non-violence, toujours la non-violence, vous n'en avez pas assez.
Notre force est dans le calme et dans le respect des lois.
Plutôt la loi de la jungle, oui.
On n'aurait jamais dû se laisser coincer dans cette salle. Ça sent le coup monté.
Un coup monté par qui ?
Nous exigeons le démantèlement des bases étrangères. La CIA...
Écoute, tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin ? Pour quelques extrémistes bornés qui ne savent même pas de quoi ils parlent ?
Et les menaces de mort.
Et alors ? C'est pas la première fois, non ? De toute façon, chacun de nous a pris ses risques.
Un extrait de votre film, film politique, Z, Costa Gavras, bonjour.
Bonjour.
Vous vous souvenez évidemment de cet extrait. Où prend-il place dans l'intrigue de votre film ?
Bien sûr, chacun de si. Il y a même une chose qui a été pas dite par Charles Denner quand il dit il faut penser aussi qu'il y a la CIA. On lui dit mais pourquoi la CIA ? Il dit il faut toujours dire du mal des Américains. Puis si on ne sait pas pourquoi, eux ils savent. Ce qu'il avait fait d'ailleurs scandale à l'époque. On avait beaucoup... Pendant le film, on avait beaucoup discuté, toutes les informations qu'on avait autour de nous, c'était la CIA a fait le coup en Grèce. Et on n'a pas trouvé des éléments qui nous prouvent que c'est la CIA. Donc on a cherché une façon de le dire avec Georges. On a cherché beaucoup et pour avoir phrasé cette phrase, ce dicton qui dit « bateau à femme tous les jours, tu sais pas pourquoi, elle sait ». Alors on l'a transformé et on l'a mis à la bouche de Charles Denner. C'est que fait beaucoup d'histoires, surtout en Amérique, quand on a présenté le film. Alors, on s'est beaucoup amusé avec Georges. On avait trouvé comme ça deux ou trois fois des phrases. Et il était assez habile pour cela. Il était un peu habile et il aimait beaucoup cet humour-là, il faut dire, oui.
C'est l'amitié qui vous a d'abord réuni ou c'est le travail ?
C'est l'amitié. C'est l'amitié. J'ai connu Georges Jorge. Je l'ai connu à la campagne chez les Montants. Et au début, il était plutôt mystérieux, il ne parlait pas beaucoup. Et quand on entrait dans des sujets politiques, c'est Georges qui avait toujours l'explication, le commentaire le plus précis, le plus intéressant. Ça m'a beaucoup surprise. J'avais demandé à Simone Signoret, qui c'est cet homme-là ? Mais du coup, tu sors un jour. Il restait encore, c'était au début des années 60, avant de quitter complètement le Parti communiste. Et c'est comme ça que je l'ai connu là. On est devenu même assez proches. Je montrais mon premier film, il a aimé mon premier film, comme ça, malgré le fait que c'était un film de genre, il m'avait dit, moi, c'est pas des films qui m'intéressent, mais bien, faut autre chose. Et il a commencé à travailler avec Alain Relais pour faire le film sur presque sa biographie. Et comme ça qu'on est devenu très proches. Et quand j'ai eu envie de faire Z, le livre était encore écrit en Z, il n'était pas en grec, il n'était pas traduit. Je lui expliquais, il connaissait l'histoire, et immédiatement il a dit, on va essayer de faire un scénario avec cela.
Donc c'est une idée qui est d'abord la vôtre, et qu'il accepte pour lui comme une évidence.
Comme une évidence, parce qu'il connaissait très, très très bien l'histoire grecque, il connaissait très bien le système qui avait complètement remplacé, et était remplacé par les colonels, et pour lui il avait aussi une sorte de connotation avec le fascisme espagnol. Donc ça l'avait beaucoup intéressé, oui.
Votre amitié, c'est une complicité, c'est une entente que vous diriez autant philosophique que politique et qu'artistique ?
Sûrement philosophique aussi, artistique et politique d'une certaine manière, sûrement. Naturellement, je n'avais pas l'expérience politique de Georges et il m'a appris énormément de choses sur le parti, sur ses relations avec le parti, avec l'Union soviétique, parce qu'il connaissait tout cela parfaitement, il avait vécu dans le pays soviétique. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand j'ai voulu faire l'aveu, je me suis automatiquement adressé à Georges. Et c'est vrai que... Il avait pas seulement une grande expérience de ses procès, il connaissait très bien, il y a même Joseph Franck, qu'il avait rencontré dans les camps de concentration, et qu'on avait accusé d'être espion américain, et il dit, mais moi j'ai passé 2 ans avec lui, et je sais très bien qu'il ne l'était pas. Mmh. C'était à mon avis peut-être la première rupture avec le... Je dirais pas avec le monde communisme, je dirais plutôt avec la direction communiste.
Peut-être qu'on peut redire, pour les auditeurs qui n'auraient plus en tête l'intrigue de vos 2 films, il y en a 3, hein, je sais bien, mais on va surtout parler de Z et de l'aveu. De quoi parle Z et de quoi parle l'aveu ?
Z, en quelques mots, c'est l'histoire de l'assassinat d'un homme de gauche qui commence à monter dans le domaine politique en Grèce. Il est contre les bases américaines, il est pour la paix, etc. Et à l'évidence, il va devenir un des leaders, parce qu'il a une sorte de charisme extraordinaire, il est docteur, il est champion olympique, etc. Et puis un jour, il est assassiné par 2 voyous. Et un juge, et c'est ça la grande vérité du film, un juge qui est nommé par le régime, donc c'est un juge du régime, cherche à voir la vérité. Et malgré toutes ces difficultés qu'il a, il finit par accuser, arriver à la vérité, qui est ceux qui ont organisé l'assassinat, c'est la police et c'est la direction militaire du Salonique, là où il s'est passé l'assassinat. Et il les accuse. Donc c'est cette histoire-là. C'est cette histoire-là qu'un écrivain grec, Vassili Vassilikos, a romancé, si je puis dire, d'une certaine manière, tout en restant sur la vérité. Et a fait le livre, c'est comme ça, c'est d'après ce livre que j'avais lu, qu'on a fait le film, et on a décidé de le faire le lendemain du prise du pouvoir par les colonels, parce qu'il fallait réagir. Mmh. Et j'en ai parlé avec Georges, je dis, voilà, il faut qu'on essaye de faire un film comme on écrit sur un mur, à bas les colonels. Je dis, il faut trouver cette forme-là, il faut trouver cette rapidité, cette agressivité même pour faire le film, et il a accepté tout de suite.
Là, on va parler après de l'aveu, mais restons sur
donc,
Z, puisqu'on
oui, alors,
en parle.
C'était cela, et bon, et naturellement, à la suite de cela, comme arrive l'intervention des colonels qui prennent les pouvoirs en Grèce, voilà, pour arrêter précisément le fait qu'il a été assassiné, cet leader politique a été assassiné, ça, c'était vraiment un tollé énorme au pays, et la gauche allait prendre les pouvoirs presque automatiquement, et c'est là où les colonels décident de prendre les pouvoirs.
Est-ce que dans le scénario que vous avez travaillé à deux, hein, vous retrouvez ce que les lecteurs de Semprin peuvent lire dans les œuvres propres à Georges Semprin ? Est-ce que le style, ou en tout cas les obsessions de Semprin sont également présentes dans votre scénario en commun ? Ou alors, finalement, ça a été un travail qui s'est fait tellement à deux qu'on ne peut plus retrouver la touche qui est la sienne ?
Non, on le trouve sans arrêt, sûrement. Mais il faut y chercher, il faut être attentif. Parce que nous étions obligés quand même par la vérité de l'histoire. Il fallait rester dans... parce que le livre est presque une copie du travail du juge. Mais par exemple, au début, la première tirade, si je puis dire, du début des colonels, on trouve carrément le style des Georges, complètement. Et après, quand on avance dans le film, on trouve des pépites tout le long du film.
Par exemple,
qui sont
vous avez
Georges.
Quelque chose qui vous revient comme ça ?
Automatiquement, ça ne revient pas, mais c'est les positions du juge, par exemple. Les positions du juge qui sont uniquement juridiques, politiques, mais ils sont surtout humaines. Et c'est là où on retrouve Georges et sa façon de voir les choses, la façon de voir le pouvoir, surtout.
Comment avez-vous travaillé avec lui ? Je crois que vous vous voyiez tous les jours pendant un mois à peu près.
Non, en fait, voilà, Georges, à l'époque, et presque toujours, a été très accaparé par toute personne qui venait lui demander conseil, le rencontrer, interview, etc. Donc, au début, ça s'est très mal passé parce qu'on n'arrivait pas à se concentrer entièrement. Il était interrompu sans arrêt. Et je lui dis un jour, il faut qu'on s'isole. Et on s'est isolé à la maison de campagne d'un ami pendant 6 semaines.
Donc toujours cette maison de campagne d'Yves Montand ou une autre maison de campagne?
Non, on n'a pas été à la campagne d'Yves Montand, une autre campagne. Parce que chez Yves Montand, il y avait du monde pendant le week-end. Et il allait y avoir des interruptions de week-end qui sont...
Qui ne devaient pas être désagréables en même temps.
Incontournables. Oui, mais incontournables. Le week-end, on allait perdre 2 jours. Tandis que là, il fallait travailler vite parce que l'idée aussi, comme je vous disais, c'était de faire le film aussi rapidement possible. Et c'est comme ça, c'était un ami à lui qui était un docteur. Et il nous a prêté sa campagne et on a vécu là. Et les seules relations avec l'extérieur qu'on a eues, c'est avec nos femmes qui, de temps en temps, venaient nous voir. Et on allait souvent jouer au flipper au village voisin.
À chaque fois, Costa Gavras, c'est l'histoire qui est le sujet de vos films avec Georges Semprin. Et cette histoire, c'est beaucoup... pour lui, l'histoire de l'Espagne. Alors que pour vous, ce n'était pas forcément l'histoire de l'Espagne. Comment ces deux choses-là, votre imaginaire politique, celui de votre pays, et l'imaginaire politique du pays de Georges Semprin, comment ces deux choses-là se sont-elles rejointes?
C'était finalement l'histoire de l'Espagne, mais c'était l'histoire de la dictature. Et comment les pouvoirs pris par des militaires ou par des dictateurs change complètement la vie des personnes, et c'est là le thème principal.
Donc c'est la même chose tout autour de la Méditerranée.
Des pays, même si la dictature espagnole était beaucoup plus dure, beaucoup plus épouvantable qu'elle a été la grecque, surtout sur le plan de la répression et des tueries. Mais c'était quand même proche. Les Grecs aussi, ils auraient pu, dans d'autres circonstances, faire comme a fait Franco.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Je suis avec Costa Gavras et nous parlons de Georges Semprin. Alors Costa Gavras, quand vous avez de nouveau sollicité Semprin pour l'aveu, j'imagine que vos relations avaient changé, vous vous étiez habitués à travailler l'un avec l'autre. Il avait lui-même lu le livre d'Arthur London, dont est
il connaissait
inspiré,
l'histoire. Il connaissait l'histoire. Moi, j'ai entendu parler du livre un soir de Noël chez notre ami François, commune Françoise Arnoul, et avec Claude Lanzmann qui en parlait beaucoup. Et le lendemain, je suis allé tout de suite acheter le livre et je l'ai lu. Et je lui ai parlé immédiatement. Il connaissait très bien l'histoire. Il n'avait pas encore lu le livre, mais il comptait le lire. Mais pas seulement il connaissait l'histoire, mais il l'avait vécu d'une certaine manière, dans sa chair, étant membre du Parti communiste, avait très bien compris, même s'il était encore très jeune. Il avait, en 53, il avait quoi? Il avait 30 ans. Mais il était dans les bureaux politiques du Parti communiste espagnol.
Donc on peut peut-être rappeler encore l'intrigue de l'aveu.
Oui, l'aveu, c'est l'histoire des procès staliniens. Il y en avait plusieurs. Celui du film, c'est celui en Tchécoslovaquie, où on accuse tous les chefs du gouvernement, tous les ministre d'être des espions américains. Et il passe par un processus de torture qui n'est pas uniquement de la torture physique, il y a la torture surtout mentale.
Et là, il s'est inspiré, Semprin, de la torture qu'il a eu à subir par les Allemands?
Je ne pense pas qu'il a fait le parallèle de cette manière. Parce que je ne pense pas que c'était le même type de torture non plus. Tandis que là, les tortures psychologique surtout, qui subissaient les dirigeants communistes et qui aboutissaient à le faire accepter d'avouer avoir été espion sans l'avoir été, pour aider le parti, c'était une autre type de torture, et Georges avait analysé et connaissait très très bien ce système-là. Donc quand je lui ai proposé de faire le film, qui était une vraie histoire, écrite par un de ces victimes du procès, qui était Gérard London, Arthur London, plutôt, Gérard, c'était son nom de résistant, il a immédiatement accepté. Et la lecture du livre, parce qu'il a lu le livre aussitôt après moi, il avait certaines préoccupations, parce que le livre, 500 pages, explique tout le système du Parti communiste, la naissance, etc. Il m'a dit, ça va être très très difficile. J'ai dit, et si on s'est concentré uniquement sur le système de la torture ? Il y a de plus. Et le fait qu'un système politique que tout le monde admirait, alors beaucoup de monde admirait à l'époque, ait créé un tel système, prouve c'est que c'est la nature de ce système politique. Donc c'était ça, l'idée qui nous a intéressés, et on a suivi cette idée finalement.
Mais ça a dû quand même être assez douloureux pour quelqu'un qui s'était engagé comme ça dans le parti communiste, de faire un film comme l'aveu, et finalement de remettre en cause tout ce pourquoi il s'était battu.
Ça a été douloureux, pas que lui, pour lui, mais en même temps intéressant, mais par nous tous, surtout par mon temps. Moi, je suis une génération plus jeune, donc je n'avais pas été aussi près dans la politique et dans la politique du Parti communiste. Et je me souviens même un jour, pendant les scènes du procès, il y a mon temps qui vient vers moi, il y a Georges qui était là aussi, il suivait de près le film, il nous dit, mais vous rendez compte ce qu'on est en train de dire? Il était vraiment effondré, parce qu'on disait des choses tellement fort, tellement énorme. Aujourd'hui, tout cela paraît très, très, très normal, très facile, mais à l'époque, c'était vraiment très fort. Et Georges le dit, mais c'est la vérité, c'est ça qu'il faut raconter. Et enfin, c'était ça son point de vue, même à travers cette douleur-là, cette douleur d'avoir vécu à côté de ça, et pas dans un moment d'avoir accepté, sans les critiquer. C'est pour cela, c'était pour lui, le film, une façon aussi de se libérer complètement, même chose d'ailleurs pour Yves Montand, qui n'a jamais été lui au parti, mais il avait été très proche pendant longtemps.
Donc ça souligne l'importance de cette relation-là, Yves Montand, Georges Semprin. C'est une
Absolument.
Relation qui va au-delà de l'amitié, qui rejoint l'expérience existentielle, des deux protagonistes.
Absolument, parce qu'ils étaient de la même génération et qu'ils ont vécu l'après-guerre, d'abord la guerre, et l'après-guerre surtout, de la même manière, cette envie que beaucoup d'hommes avait d'être très proche du Parti communiste. Il ne faut jamais oublier qu'en France, il y avait combien, 26%, 28% à un moment donné des communistes. C'était énorme. Et qu'ils avaient des raisons très précises, très sérieuses d'y être. Et ils sont aperçus très vite, toute cette génération, qu'ils se sont fait avoir par un système qui finalement qui ne valait pas leur qualité d'engagement. Voilà.
Et vous avez assisté à tout ça, vous étiez presque un protagoniste aussi, peut-être en second plan, mais tout de même, de cette histoire-là.
Moi, j'ai assisté d'abord à cette fascination, parce que je me souviens encore mon père qui disait, voilà, Stalingrad est tombé. Enfin, Hitler est tombé à Stalingrad, c'est la fin de Hitler. Je me souviens encore de cette phrase, et c'est vrai que j'étais fasciné par cela, et c'est vrai que quand j'ai connu Montand et Semprun et Simone Signoret à Paris, j'ai découvert ces mots extraordinaires, et cette façon de critiquer aussi, de prendre des positions critiques, sans avoir la passion, ou plutôt la haine pour l'autre, mais une position simplement critique.
Avec Semprin, Costa-Gavras, vous avez eu envie de faire un film, mais vous ne l'avez pas fait. C'est une adaptation de L'Espoir de Malraux.
En fait, c'est un peu plus compliqué que cela. Avec Georges, on s'est toujours souvent dit qu'on fait des films sur des vraies histoires et que les vraies histoires ont une logique qui n'a pas le cinéma. C'est-à-dire que les vraies histoires se déroulent pendant des mois, des années parfois. Un film, ça fait des heures. Donc, les choix que nous faisions devraient être des choix tout particuliers qui racontent l'histoire et qui respectent une certaine éthique des personnages. Donc, alors, ces choix-là, on ne pouvait pas les raconter par rapport à nous, on a cherché à les raconter par rapport à Malraux. Comment Malraux a fait son espoir et qu'on a commencé à travailler là-dessus. Malheureusement, Georges est tombé malade et qu'il n'est pas, quand il est sorti de l'hôpital, il ne peut plus continuer ce travail, malheureusement.
Il y avait du Malraux chez Georges Semprin ?
Il y avait sans doute du Malraux. En tout cas, il y avait beaucoup d'admiration de Malraux. Georges connaissait très très bien Madame Clara Malraux. Et ils étaient des grands amis et Clara lui avait raconté beaucoup d'histoires qu'on voulait introduire d'ailleurs, comme on connaissait très bien aussi tous les deux la fille de Malraux, Florence Malraux. Mmh. Et on comptait beaucoup introduire ces histoires-là, personnelles, surtout celles de Georges, par rapport à Malraux et Clara Malraux.
Vous avez dit, et ce sera le mot de la fin, Costa Gavras, que Semprin était un homme doux et drôle. Vous diriez qu'il était d'abord doux ou d'abord drôle ?
Non, il était d'abord doux. Il était d'abord doux parce que quand il est arrivé à des moments très durs, très très violents, il passait souvent par l'humour. Je me souviens encore d'une phrase qu'il disait de quelqu'un qu'il n'aimait pas du tout. Il a dit, c'est un abîme de bêtises politiques. C'était à mon avis la grande insulte que pouvait sortir Georges pour quelqu'un qu'il n'appréciait pas du tout.
Merci beaucoup, Costa Gavras, d'être venu parler ici à la compagnie des auteurs de Georges Semprin. Évidemment, je renvoie nos auditeurs sur vos films et peut-être en particulier Z et L'aveu, qui sont parmi vos plus grands films. Lundi prochain, nous entamerons une semaine consacrée à Michel Tournier, à l'occasion de la publication dans la Pléiade de ses romans. Nous nous pencherons donc sur la vie et l'œuvre de l'auteur de Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, du Roi des Zones ou encore des Météores. Mais avant cela, sur France Culture, c'est le moment de retrouver Jacques Bonafé. Il continue de lire toute la semaine des poèmes de Ted Hughes.
Bonjour. Avec Ted Hughes, soyons animalistes. Oui. Amarrés d'abord au Birthday's Later, nous sommes progressivement partis vers les poèmes et nous voilà avec lui à chasser, tomber face à face avec les animaux, pêcher, guetter, humer, languir. C'est la tête le plus étrange, la tête étrangement mûrie, en forme de dôme sur le cerveau, nacelle expansée, pour contenir quoi de si vaste au juste ? Lobe glandulaire, à l'attention mystérieusement ample, angoissante anguille, ce fruit rebondi de l'évolution, licité de prune. Dessous, la pantoufle écrasée du visage, le groin, la bouche, long rire grimaçant pour la forme, proéminence prédatrice, et l'iris d'or sali, distillé juste assez pour la différence qui le distingue de la veine couleur d'olive du corps, ses noirs graineux et métissés, dans un plus grand anneau, mais d'une vision plus floue, l'œil primitif, au fond de l'œil plus pâle, plus aveugle, tourné vers le dedans. Sa bosse de buffle inaugure sa progression sidérante. Ça n'est qu'un extrait. Ah, on retourne à Crow, le corbeau. Noir était l'œil dehors, noir la langue dedans. Noir le cœur, noir le foie, noir les poumons, incapable d'aspirer la lumière. Noir le sang dans son bruyant tunnel, noir les boyaux de feu comprimés, noir les muscles d'effort pour sortir dans la lumière. Noir les tendons, noir le cerveau avec ses visions entombées, noir aussi l'âme, l'immense bégaiement du cri qui, plus il enflait, moins il pouvait prononcer son soleil. Crow, c'est l'animal emblématique, un long poème de Ted Hughes. Ce moment précis, étonnant poème celui-ci, quand le canon du pistolet d'où s'échappait la fumée bleue fut relevé, telle une cigarette qu'on ôte d'un cendrier, que le seul et dernier visage restant au monde tomba fracassé, dans le creux des mains se relâchant, intervention trop tardive, que les arbres se fermèrent définitivement, que les rues se fermèrent définitivement, que le corps fut par terre sur les graviers du monde abandonné, au milieu d'outils abandonnés, exposé à l'infini de l'infini, Crow dut se mettre en quête de quelque chose à manger.
Et à bientôt 16h sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Nicolas Martin pour la méthode scientifique. Très bon après-midi à toutes et à tous.